Nous sommes au troisième jour de la fête des tabernacles. Le titre de mon sermon, je vais le donner en premier, parce que si je ne le fais pas, je vais l'oublier. Comment préserver et réaliser une vision? Comment préserver et réaliser une vision? Chaque année, au sein de l'Église de Dieu, nous célébrons des observances spéciales que nous appelons les fêtes de Dieu ou ces jours saints. Nous voyons ces jours décrits dans l'ordre qu'ils doivent être observés dans Lévitique 23, incluant la fête des tabernacles et le dernier grand jour, que vous êtes venus observer ici par obéissance à Dieu. Le but de mon sermon aujourd'hui est de montrer que ces jours saints que nous célébrons sont soutenus par l'Église de Dieu du Nouveau Testament, et même par des historiens séculiers. Ce sont les jours que les vrais chrétiens doivent observer, et aussi pour montrer le grand bienfait que nous en obtenons, la grande bénédiction que nous recevons grâce à leur observance. Je sais que vous avez probablement déjà lu cela lors de la fête, mais j'aimerais recommencer avec Lévitique 23. Lévitique 23, versets 1 à 3. Lévitique 23, verset 1, où il est dit, au verset 1, « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, « Les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de cinq convocations. Voici quelles sont mes fêtes. » Une grande partie du monde dit que ce ne sont pas des fêtes chrétiennes, ce sont des fêtes juives. Mais elles ne sont ni juives ni chrétiennes, ce sont les fêtes de Dieu. Verset 3. On travaillera six jours, mais le septième jour est le sabbat, le jour de repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Et Dieu a dressé une liste des jours saints. Puis si vous descendez au verset 33, il dit, au verset 33, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce septième mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Ainsi, il identifie une fête de 7 jours et il dit, au verset 35, le premier jour, il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Maintenant ici, il y a une différence. Le jour du sabbat est le jour des expiations, il nous est demandé de ne pas travailler, point final. Pour les autres jours saints, il nous est dit de ne pas faire notre travail habituel. Et lorsque vous lisez d'autres sections du livre d'Exode, cela est précisé parce que les autres jours saints, on avait un peu plus de latitude dans la préparation des aliments à cause des fêtes que les gens avaient ces jours-là. Nous pouvons toujours préparer un peu de nourriture le jour du sabbat, mais ce ne doit pas être un jour où l'on cuisine beaucoup et ce genre de choses. Néanmoins, les jours saints donnaient un peu plus de latitude parce que beaucoup de gens se réunissaient et avaient besoin de manger, mais il n'y avait pas d'autre travail à faire. Puis au verset 36, pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu. Nous ne faisons pas cela aujourd'hui, car je suis sûr que le personnel de l'établissement porterait plainte si nous brûlions des offrandes dans cette salle. Bien sûr, il y a d'autres raisons pour lesquelles nous ne le faisons pas, mais il est dit que vous ferez une offrande à l'Éternel le 8e jour. Verset 36, pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation. Et vous offrirez à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle, vous ne ferez aucune œuvre servile. Puis au verset 37, il dit, « Telles sont les fêtes de l'Éternel, résumant toutes celles qui ont été expliquées dans ce chapitre, les cinq convocations que vous publierez afin que l'on offre à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu, des holocaustes, des offrandes, des victimes et des libations, chaque chose au jour fixé. » Verset 38, « Vous observerez en outre les sabbats de l'Éternel, vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel, tous vos sacrifices pour l'accomplissement d'un vœu et toutes vos offrandes volontaires. » Certains disent parfois, « L'Église a tort de demander une offrande pour les 7 jours saints. Parce que dans Deutéronome 16:16, il est dit « Vous vous présenterez 3 fois par année ». Alors pourquoi donnons-nous une offrande pendant les 7 jours saints? Eh bien, voici la réponse. Si vous lisez attentivement, il y avait une offrande volontaire à donner par les gens à chacun des jours saints. C'est évident ici. Et ainsi, M. Armstrong avait raison lorsqu'il a dit que 3 fois par an signifie 3 saisons dans l'année. Mais pour chacun des jours saints, Dieu nous demande une offrande. Puis il dit au verset 40, « Vous prendrez le premier jour, au verset 40, en fait, le verset 39, le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos. Le premier jour était donc un jour saint. Puis il dit, « Et le 8e jour sera un jour de repos. » Il ne mentionnait pas un 8e jour jusqu'à ce point, mais il y avait un 8e jour, un repos sabbatique, un sabbat spécial ajouté à l'issue de la fête des tabernacles. Verset 40. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière, et vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu pendant 7 jours. Verset 41. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. En anglais, le terme « booth » est également traduit par « tabernacle » ou « tente » dans certaines versions de la Bible tant anglaise que française. Ce sont des équivalents. Mais il s'agit d'une habitation temporaire et non de votre maison permanente. Au verset 43, « Afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël, après les avoir fait sortir du pays d'Égypte, je suis l'Éternel votre Dieu. » C'est ainsi que Moïse dit aux enfants d'Israël quelles sont les fêtes de l'Éternel. Nous ne venons pas seulement ici pour vivre dans des habitations temporaires pendant le temps de la fête, mais nous résidons dans une demeure temporaire tout au long de l'année. Cela s'appelle notre corps. Notre corps est temporaire. Et Dieu l'a voulu ainsi. Car lorsque nous connaissons la vérité et que nous comprenons cela, nous recherchons une demeure permanente. C'est un point important. La réalité du fait que nous sommes dans un corps temporaire devient de plus en plus évidente pour nous au fur et à mesure que nous vieillissons. Dieu a donc un moyen de nous aider à prendre l'avenir plus au sérieux alors que nous vieillissons. Nous savons également, d'après les Écritures que Dieu a inspirées, dans ce que nous appelons le Nouveau Testament, que l'Église de Dieu à ses débuts a reçu l'enseignement de continuer à observer les jours saints qui avaient été donnés à l'ancien Israël lorsqu'il avait conclu une alliance avec Dieu au mont Sinaï. Dieu a demandé à Moïse de les mettre par écrit et ils sont devenus partie intégrante de ce que nous appelons les Écritures hébraïques. Nous savons également que l'Église du Nouveau Testament observait ces jours saints. Mais je suis sûr que vous avez tous été confrontés à des gens qui disent que ce sont des fêtes juives et qu'il n'est plus nécessaire de les observer. Même si Dieu dit dans Lévitique 23, ce sont les fêtes de l'Éternel, pas des Juifs, pas des Israélites, mais les fêtes de Dieu. Puis les gens ajoutent, eh bien, elles ont été clouées à la croix. Elles ont disparu avec le sacrifice de Jésus, nous n'avons plus à les observer. Et là est le problème. C'est que les gens qui disent cela ne lisent pas vraiment le Nouveau Testament et n'étudient pas l'histoire. L'un des chercheurs les plus connus dans le domaine de la préservation des annales historiques, de ce que l'on appelle l'Église chrétienne, le Dr. Owen Chadwick, qui dirigeait les études religieuses à l'Université de Cambridge, n'était pas personnellement très religieux, mais c'était un très bon historien. J'ai lu l'un des livres de Chadwick pour la première fois en 1968, dans le cadre d'un cours universitaire, soit 4 ans avant que ma femme et moi ne fréquentions l'Église. Son livre s'intitulait « The Reformation by Chadwick »,« La réforme par Chadwick ». Et il faisait référence à certains chrétiens de différentes régions de la France et du nord de l'Espagne qui observaient le sabbat, la Pâque, les jours de pain sans levain, etc. En fait, certaines des pires persécutions de l'Église ont eu lieu dans ces régions. Certes, les autorités catholiques romaines ont beaucoup persécuté l'Église, mais les autorités protestantes l'ont fait tout autant. Les calvinistes et les luthériens étaient très, très vicieux dans leur persécution du peuple de Dieu. Chadwick fait une déclaration très intéressante dans son texte intitulé « A History of Christianity », une histoire de la chrétienté, à la page 10, et il dit « Le christianisme était une forme de la foi des Juifs, et non pas seulement dans ses premières années. » Il dit « La foi chrétienne a commencé comme la voie à suivre de la foi juive et de suivre les enseignements de la Bible hébraïque. » Il fait également une déclaration intéressante. Les premiers chrétiens ont repris leur cantique du livre des cantiques des Juifs, qui était le livre des psaumes du roi David. Ces cantiques étaient chantés dans le temple de Jérusalem et dans les synagogues que Jésus visitait. J'ai trouvé cela intéressant, parce que dans l'Église de Dieu, nous avons un recueil de cantiques. Il est intéressant de noter que Dieu a inspiré M. Armstrong à demander à son frère de mettre en musique un grand nombre de ses psaumes, ce qui est exactement ce que faisait l'Église primitive de Dieu en Europe après la mort du Christ, comme le montre ici un historien. Et il continue avec beaucoup, beaucoup d'autres citations. Il continue en précisant que les observances du dimanche, de Noël, des Pâques, ont toutes été tirées de sources païennes. Comme à l'époque, en raison des nombreuses guerres juives, tout ce qui s'apparentait aux Juifs était devenu très impopulaire. Ainsi, les gens qui n'étaient pas solidement ancrés dans la foi ont commencé à modifier leurs croyances pour ne pas avoir l'air juif. Mais il y a un autre exemple que j'ai trouvé encore plus intéressant, et je l'ai découvert cette année. Il provient d'un écrivain très connu à son époque. Il s'agit d'un chercheur d'Oxford qui a écrit un livre sur le peuple d'Europe de l'Est fortement persécuté qui a survécu en Europe après la chute de l'Empire romain. Ce livre fut rédigé à l'époque par un groupe appelé Policiens ou Bogomils qui vivaient dans certaines parties de ce que nous appellerions l'Europe du Sud-Est. Ce texte, qui était intitulé « The Key of Truth », la clé de la vérité, avait été écrit vers l'an 700 après Jésus-Christ. Il fut traduit par l'érudit anglais nommé Frederick Conybeare, qui était membre de la faculté à l'Université d'Oxford, en 1898. Dans sa traduction, Conybeare a écrit ce qu'il a découvert sur ce peuple. Il dit qu'ils prêchaient un évangile qu'ils appelaient l'évangile du royaume de Dieu, et qu'ils croyaient que l'Église était fondée non seulement sur Jésus-Christ, mais aussi sur les apôtres et les prophètes, citant Éphésiens 2:20. Ils baptisaient par immersion, ils imposaient les mains pour la réception du Saint-Esprit et continuaient non seulement à célébrer la Pâque le 14 de Nissan, mais aussi à observer le sabbat et la fête des pains sans levain. Il s'agissait d'un groupe persécuté du peuple de Dieu qui observait les jours saints avec zèle 700 ans après la crucifixion. L'Église du Dieu vivant est la continuation de cette foi. Et nous nous efforçons d'obéir à Dieu en prêchant l'Évangile du royaume de Dieu avec toute la force dont nous disposons, Et nous poursuivons l'avertissement que Dieu a donné à Ézéchiel pour les descendants modernes d'Israël, à qui Dieu veut qu'un avertissement soit donné. Et il nous tiendra pour responsables si nous ne donnons pas cet avertissement. En outre, nous devons nous efforcer d'aider les personnes que Dieu appelle de toutes les nations, de tous les peuples de la terre, à bâtir le caractère dont elles ont besoin et que Dieu veut en chacun de nous. Pour nous guider dans ce qui est bien et mal à travers sa Bible, comme Dieu le comprend et nous l'enseigne. Ainsi, ces personnes pourront connaître la glorieuse résurrection au son de la septième trompette. Notre brochure, nous avons cette brochure ici. J'aurais dû apporter l'exemplaire français, mais il s'agit de l'Église de Dieu à travers les âges. C'est un livre très précieux, et je vous encourage à le relire de temps en temps, parce qu'il nous encourage à penser que nous ne sommes pas les seuls dans l'histoire. Nous faisons ce que nos frères ont fait pendant des siècles, en suivant l'exemple de Jésus-Christ et des apôtres. Vous savez, lorsque nous lisons le livre des Juges, de Josué, de 1 et 2 Samuel, de 1 et 2 Rois, ou 1 et 2 Chroniques, nous comprenons que l'ancien Israël a été instruit sur les jours saints que nous observons ici. Les prophètes envoyés par Dieu le leur ont rappelé à maintes reprises. Pourtant, tout au long de leurs 1000 ans d'histoire désolante en terre promise, nous voyons une histoire douloureuse, rendue douloureuse par le fait que le peuple et ses dirigeants étaient presque constamment en rébellion abjecte contre Dieu et sa loi. Et Dieu a, à plusieurs reprises, indiqué très clairement ce qu'il devait faire et comment il devait le faire. Il n'y a pas de malentendu possible lorsque vous lisez la loi. Elle est très claire. Vous savez, quand le commandement dit « tu ne voleras pas », il est difficile de se méprendre sur ce point. Mais en tant qu'être humain, nous nous efforçons de contourner ce problème, tout le temps. Mais encore, Dieu nous dit « tu ne prendras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain ». C'est très limpide. Et pourtant, il devient presque culturel de violer son nom avec toutes sortes d'expressions et dans toutes les langues. Dieu l'a précisé à plusieurs reprises. Les 10 commandements étaient clairs. Les lois et les jugements sont clairs. De même que le sabbat et les jours saints. Pourtant, alors qu'Israël est encore au Sinaï, dans le désert, il y avait chaque jour une grande nuée au-dessus de la tente d'assignation. Et chaque nuit, il y avait une colonne de feu. Elle ne les a jamais quittés. La Bible nous dit qu'elle ne les a pas quittés pendant 40 ans. Ils pouvaient voir cette présence miraculeuse, et pourtant, ils se sont rebellés. En tant que nation, dès le début, à l'exception d'un petit nombre avec lequel Dieu pouvait travailler, la nation a rejeté Dieu et son mode de vie. Elle a attiré sur elle toutes sortes de malheurs. Il ne doit pas en être de même pour nous. Vous connaissez le millénium. Nous en entendons parler. Et vous savez qu'au cours du millénium, que nous représentons à l'occasion de cette fête, une belle promesse va se réaliser. Nous examinons aujourd'hui quelques passages bibliques, dont certains ont peut-être déjà été abordés, mais la promesse de Dieu à Israël dans cette existence physique était également très grande. Ce à quoi nous ne pensons pas souvent. Dieu a fait à Israël une promesse inimaginable sur ce que serait la vie à leur époque s'ils avaient obéi aux règles qu'il leur avait données. Et ils les ont rejetées. Prenons l'exemple de Deutéronome 7. Rappelez-vous, Deutéronome est un enregistrement du rappel de la loi que Moïse a donnée à Israël juste avant de mourir et juste avant qu'Israël n'entre dans la terre promise. Deutéronome 7, au verset 12, nous lisons la déclaration de Moïse. Il leur parle de la loi, de ce qu'ils doivent faire, et des jugements. Deutéronome 7, verset 12. Si vous écoutez, vous savez, M. Armstrong avait l'habitude de dire, il a fait une déclaration que j'ai entendue si souvent dans ma carrière, même en dehors de l'Église, il y a une cause pour chaque effet. Et c'est une déclaration brillante, parce que lorsque quelque chose arrive, quelque chose l'a causé. Cela fonctionne en physique, cela fonctionne dans notre vie quotidienne. Lorsqu'Israël avait des problèmes, il y avait une cause. Lorsque les choses allaient bien, il y avait une cause. Il en va de même pour nous. Et au verset 12, « Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a jurée à tes pères. » Verset 13, « Il t'aimera, il te bénira et te multipliera. » Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, de ton blé, ton moût et ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail, dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Verset 14. Tu seras béni plus que tous les peuples, et il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. Remarquez le verset 15. C'est une promesse faite à Israël à l'époque de Moïse. S'ils obéissaient, il dit au verset 15, « L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. » Quelle offre extraordinaire! Quelle est la valeur de cette offre? Quelle est sa valeur aujourd'hui? Et ils l'ont rejeté. Ils ont rejeté l'offre d'un être dont ils avaient la preuve directe de sa présence. C'était vraiment étonnant. Mais aujourd'hui, Dieu nous a appelés. Et il nous a appelés, vous et moi, sans grand miracle visible. Et vous êtes ici parce que vous lui avez obéi. Vous avez été appelés. Vous avez choisi de lui obéir et vous vous êtes repenti. Plusieurs ont été baptisés. Ensuite, par le don du Saint-Esprit, il vous a engendré en tant que véritable enfant du Dieu des cieux. L'Esprit de Dieu a commencé à vous guider avant même que vous soyez baptisés, car Dieu guide ceux qui l'appellent. Mais après le baptême, le Saint-Esprit est en vous. C'est aussi de la même manière que l'Esprit de Jésus-Christ, physiquement présent, et par l'intermédiaire de Moïse, guidait l'ancien Israël. Mais la plupart des dirigeants se sont rebellés. Même Aaron, le sacrificateur, s'est rebellé pendant un certain temps. Je veux dire qu'il s'est sérieusement rebellé. Il a fabriqué un veau d'or pour l'adorer et il a dit, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Il a dit cela alors que la colonne de nuée était encore visible. Je pense donc qu'il s'est passé quelque chose que nous ne comprenons probablement pas, mais c'est tout de même étonnant. Mais ce qu'ils ont refusé de la part d'un Dieu qui avait séparé la mer Rouge devant eux, qui leur avait donné de l'eau à partir de rochers et de la nourriture chaque jour par miracle, c'est difficile à comprendre, et Dieu s'attendait à beaucoup plus de ce peuple. Comme conséquence de leur attitude, parmi tous les adultes, les millions d'adultes qui sont sortis d'Égypte, les deux seuls adultes qui sont entrés dans la terre promise furent Caleb et Josué. Certes, il y a un prix à payer pour la désobéissance. Mais tout au long de l'histoire d'Israël, il en a été ainsi. Et même lorsque Dieu accomplissait de grands miracles par des prophètes comme Élie et d'autres, le peuple obéissait tant qu'il n'y avait pas de menaces ou d'autres attraits. Mais dès qu'un chef méchant et ses partisans adoptaient des principes qui rejetaient Dieu, tout le peuple était hors la loi, ou presque. Cependant, dans l'ancien Israël, quelques-uns sont restés fidèles malgré les menaces de mort. La femme d'Achab, Une dame, si je peux l'appeler ainsi, Jézabel, était une femme assez redoutable. Même Élie était un peu craintif d'elle. Voyons dans 1 Rois, chapitre 19. Et le verset 1. 1 Rois 19, verset 1. Il dit, Achab rapporta à Jézabel. Ceci se passe après qu'Élie, par l'intermédiaire de Dieu, ait accompli le grand miracle de faire descendre le feu du ciel et qu'il ait anéanti les prophètes de Baal et d'Astarté qui égaraient Israël. Alors Achab rentra chez lui et raconta à Jézabel ce qui s'était passé. 1 Rois 19, verset 1. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » À ce moment-là, elle était très irritée. Mais remarquez le verset 3. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartenait à Juda. Il a quitté le territoire d'Israël. Il est descendu à Beersheba, verset 3, et il laissa là son serviteur. Verset 4. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant, « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il dit cela parce qu'il s'était enfui. Mais Dieu a eu pitié de lui. Nous poursuivons au verset 13, et Dieu commença à lui parler, et il dit au verset 13, « Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne, et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Verset 14, il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. » Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. À ce moment-là, il était très découragé, il se sentait seul. Il avait l'impression qu'il n'y avait personne d'autre dans le pays qui osait être fidèle au Dieu du ciel. Au verset 15, Dieu lui donne des instructions sur ce qu'il va faire. Et remarquez le verset 18, où il est dit, verset 18, « Mais je laisserai en Israël 7 000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. » 7 000, dit Dieu, me sont encore fidèles. Tu ne les connais pas, Élie, parce qu'ils ne sont pas sur la place publique, ils ont peur. Mais ils me sont fidèles. Ils ne pêchent pas comme les autres. Dieu savait qui ils étaient. Il sait qui vous êtes. 7 000 Israélites sur une population estimée à près de 10 millions à l'époque. Ils sont restés courageusement fidèles. L'essentiel est que Dieu connaissait chacun d'eux. Et pourtant, beaucoup ont dû se sentir seuls, parce qu'ils ne savaient pas à qui s'adresser en toute sécurité, dans une période dangereuse. Dieu voit ce que nous faisons, et il voit qui est fidèle, et il n'abandonnera jamais quelqu'un qui lui est loyal. Il n'oublie jamais la loyauté envers lui. C'est ce que Paul a dit dans l'Épître aux Hébreux. Si nous regardons le livre des Hébreux, chapitre 13, Hébreux 13, et au verset 5, Dieu dit, Hébreux 13, verset 5, « Ne vous livrez pas notre comportement, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, ne pas continuellement rechercher les choses physiques, contentez-vous de ce que vous avez. » Car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? » Ces gens, à l'époque d'Élie, étaient très fidèles. Ces 7000 personnes. Il y en a eu beaucoup à l'époque de Paul qui ont été très fidèles, malgré le fait que certains aient été arrêtés, qu'on leur ait confisqué leurs biens. Lorsqu'il parle d'épreuves ardentes, il en parle littéralement parce que beaucoup ont été brûlés à mort pour leur foi et ils n'ont pas cédé. Alors, vous pourriez dire que Dieu a dû les abandonner. Non, il ne les a pas abandonnés. Parce que l'homme ne peut pas tuer ce que Dieu peut rendre immortel. Cette déclaration, « Que peut me faire un homme? » est vraie, même s'il vous tue. Un instant plus tard, au moment où vous en aurez conscience, vous vous élèverez dans le ciel pour rencontrer Jésus-Christ à son retour. Vous aiderez alors à enseigner, à corriger et à juger, si nécessaire, ces mêmes personnes qui étaient abusives, avec l'intention de les sauver pour leur vie éternelle. Vous voyez, ces gens, ces fidèles, que ce soit à l'époque d'Élie ou de l'apôtre Paul, ou de certains disciples de Jean comme Polycarpe, les membres de l'Église du Moyen Âge, et vous, ici aujourd'hui, nous ici aujourd'hui, recevons de grandes promesses. Eux et nous aujourd'hui voulons que ces promesses s'accomplissent. Cependant, d'autres, bien qu'ils aient reçu l'opportunité, ont rejeté une bénédiction de richesse, de paix, de santé ou de famille, parce qu'ils s'attendaient à avoir droit à de telles promesses sans obéir. Frères et sœurs, c'est un énorme problème aujourd'hui dans nos sociétés, en particulier ici au Canada, peut-être dans d'autres parties du monde occidental. Il y a cette impression, j'ai droit à des choses sans avoir à travailler pour cela. J'ai droit à des choses sans avoir à changer mon comportement. Et Dieu est injuste parce que je n'ai pas ceci ou cela. Dieu n'est jamais injuste. Ce qu'il a pour nous à long terme est bien plus grand que tout ce qui peut être atteint dans une vie humaine. Lorsque les gens ont la possibilité de bénéficier du pardon, de la bénédiction et des promesses de Dieu, mais qu'ils commencent à remettre en question les lois et les jours saints de Dieu, la grandeur de la promesse du royaume commence à s'estomper dans leur esprit. Et lorsque, comme l'ancien Israël, ils commencent à diluer l'observance de sa loi ou à considérer la fête des tabernacles comme une option au lieu d'un commandement, alors les choses commencent à se brouiller et la vision n'est plus claire. Et bientôt, ils cèdent un peu ici et un peu là. Et avant longtemps, la vérité perd son importance, se perd dans les idées et les attraits de ce monde, et le cœur commence à s'endurcir à l'égard de Dieu. C'est l'une des raisons pour lesquelles Israël a perdu son chemin. Il y a un passage étonnant dans le livre de Néhémie, dont je parle souvent parce que c'est vraiment un passage saisissant. Et je veux le souligner à nouveau aujourd'hui pour une raison. Vous voyez, Israël est devenu ignorant d'une grande partie de la loi, et même plus en captivité. Les Juifs, bien entendu, vers 586 avant Jésus-Christ, ont connu leur troisième et dernière vague de captivité. La ville fut détruite par les Babyloniens en 586. Puis vers 536 avant Jésus-Christ, le roi de Perse conquit Babylone et Dieu poussa Cyrus, roi de Perse, à libérer les Juifs de la captivité. Ils ont eu la possibilité de rentrer chez eux à Jérusalem pour la reconstruire. Le roi leur a même dit de rentrer chez eux et de reconstruire le temple. Mais seuls quelques-uns sont rentrés chez eux. La vaste majorité est restée en Perse. Leurs descendants y sont encore aujourd'hui. Mais les quelques personnes qui sont rentrées chez elles, sous la direction d'hommes comme Esdras, et non pas seulement Esdras, mais d'autres aussi, sont rentrées chez elles et elles ont commencé à reconstruire le temple et la ville et à occuper et mettre en valeur certaines des terres autour de la ville. Mais le travail n'a pas abouti. L'une des raisons est qu'ils craignaient l'intimidation de leur entourage, à tel point qu'ils ont ralenti le travail. Ils sont devenus laxistes et ont commencé à faire des choses qu'ils n'auraient pas dû faire. Ils ont commencé à se marier avec des personnes qui n'avaient pas les mêmes croyances religieuses. C'est une question qui revient avec insistance dans le livre de Néhémie. Le résultat était qu'ils ne prospéraient pas. Ils enfreignaient les lois de Dieu. Ils violaient le jour du sabbat, ce qui constituait un problème majeur. Quelques années plus tard, vers l'an 450 avant Jésus-Christ, Néhémie, un haut fonctionnaire juif du gouvernement de Perse et un confident très proche du roi, a reçu un mandat du roi pour reconstruire la ville et de veiller à ce que la nation juive soit établie conformément aux lois bibliques. Vous pouvez lire le livre de Néhémie. Ainsi, Néhémie arrive et constate que la nation ne respecte pas la loi. Et Néhémie était un dur à cuire. Je ne sais pas comment on traduit ça en français, désolé. Quoi qu'il en soit, c'était un dur à cuire, mais il était très fidèle à Dieu. Et si vous regardez Néhémie, le 8e chapitre, Néhémie 8, et à partir du verset 13, au verset 13, Néhémie les a réunis et a commencé à leur lire la loi. Et les gens étaient stupéfaits. Ils ne l'avaient pas entendu. Gardez cela à l'esprit. Bien qu'ils aient entendu la loi, même après leur retour, ils l'avaient déjà oubliée, parce qu'on n'en parlait pas. Néhémie 8, verset 13. Le second jour, le deuxième jour de la fête des tabernacles, les chefs de famille de tout le peuple, les sacrificateurs et les lévites, s'assemblèrent auprès d'Esdras, le scribe, pour entendre l'explication des paroles de la loi. Verset 14. Et ils trouvèrent écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrite par Moïse que les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes pendant la fête du septième mois, et proclamer cette publication dans toute leur ville et à Jérusalem, aller chercher à la montagne des rameaux d'olivier, des rameaux d'olivier sauvage, des rameaux de myrte, des rameaux de palmier et des rameaux d'arbres touffus, pour faire des tentes, comme il est écrit, verset 16. Alors le peuple alla chercher des rameaux, et ils se firent des tentes sur le toit de leur maison, dans leur cour, dans les parvis de la maison de Dieu, sur la place de la porte des eaux, et sur la place de la porte d'Éphraïm. Toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des tentes, et ils habitèrent sous ces tentes. Et notez, depuis le temps de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël n'avaient rien fait de pareil. Et il y eut de très grandes réjouissances. À ce moment-là, Néhémie ne trouve pas dans la nation d'obéissance à la loi. Néhémie, lui, brûlait de zèle pour Dieu. Il croyait résolument Dieu. Malgré les menaces de l'opposition, il a corrigé le peuple et Dieu l'a soutenu. Et c'est une chose que nous ne devrions jamais oublier. Si nous choisissons d'obéir à Dieu et que nous craignons les conséquences de la désobéissance, Dieu nous soutiendra. Oui, il le fera. Tant de gens ne viennent pas à la fête parce qu'ils ne croient pas que Dieu prendra soin d'eux s'ils paient fidèlement la dîme et viennent à la fête. Et ils commettent une erreur. Maintenant, je peux comprendre que les gens ne viennent pas à la fête s'ils sont malades ou s'ils ne le peuvent pas. Vous savez, ils peuvent être très âgés ou avoir divers problèmes physiques. Mais si nous n'avons pas l'un de ces problèmes, nous devrions vraiment être ici physiquement. Et vous l'êtes. Mais certains craignent de perdre leur emploi. Et je l'ai déjà dit, j'ai perdu mon premier emploi d'enseignant à cause de la fête des tabernacles. Certes, il y a eu quelques années de vaches maigres entre les deux, mais cela a eu pour conséquence que j'ai fini par occuper un poste bien meilleur que ce que je n'aurais jamais eu avant. Et beaucoup de gens ont fait cette expérience. Dieu prendra soin de nous si nous lui obéissons et si nous le mettons en premier. Néhémie, voyez-vous, craignait Dieu plus qu'il ne craignait les hommes. Dans les jours qui viennent, les jours qui sont devant nous, dès maintenant, nous allons devoir craindre Dieu plus que les hommes. Jamais au cours des derniers siècles, cela n'a été plus important. Néhémie a corrigé la nation. Il a rétabli la fête. Ce verset 17, vous savez, c'est incroyable. Il n'avait pas fait cela depuis les jours de Josué. Pendant 1000 ans, Israël n'avait pas célébré la fête correctement. Ni au temps de David, ni au temps de Josias, ni au temps d'Ézéchias. Aucun d'entre eux. Et nous nous demandons pourquoi ils étaient en difficulté. Lorsque vous ne respectez pas la fête des tabernacles, vous perdez la vision de ce pourquoi nous sommes ici pour lutter. Et c'est très important. Vous savez, quand quelqu'un est comme ces 7000 au temps d'Élie, et que quelqu'un est prêt à donner sa vie pour Dieu, Dieu sait qu'il peut lui faire confiance pour toujours. Et ces 7000, nous ne savons même pas combien de milliers, de dizaines de milliers ou de centaines de milliers depuis les jours d'Adam jusqu'au retour de Christ seront aussi dans la première résurrection. Il y avait beaucoup de gens fidèles, pas seulement quelques-uns. Vous savez, Paul parle d'une grande nuée de témoins dans Hébreux 11. Et il se réfère au peuple de l'Ancien Testament à ce moment-là. Il n'a pas dit quelques personnes, il a dit une grande nuée de témoins. Dieu sait qui lui a été fidèle, mais la nation a souffert parce que les dirigeants et la plupart des gens n'étaient pas obéissants. Mais ce n'est pas seulement le cas de l'ancien Israël. Il peut y avoir ce genre de problème dans l'Église. L'apôtre Paul, lorsqu'il écrit dans 2 Timothée 1, verset 15, 2 Timothée 1, verset 15, « Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Un grand nombre d'entre eux ont subi la pression des sociétés qui les entouraient et ils ont quitté la foi. » Dans la vie de beaucoup d'entre nous, nous avons vu cela se produire en 1992 lorsque les dirigeants et le ministère de l'Église universelle de Dieu ont commencé à répudier la vérité et la loi de Dieu. Curieusement, trop de gens ont commencé à suivre cette voie, et le résultat a été qu'ils se sont éloignés de la loi, de la vérité, de la vision de l'endroit où nous allons, et de la promesse de Dieu à l'égard de l'humanité. Ils ont abandonné la volonté d'obéir, ils ont pris un chemin plus facile, et la vision a disparu. Seuls quelques ministres et membres, par rapport au nombre total, se sont accrochés à la vérité. Ils avaient étudié la loi de Dieu. Ils connaissaient les doctrines, ils connaissaient les Écritures, ils sont restés fidèles à Dieu et ont continué à observer les jours saints de Dieu. Et quel fut le résultat? Ils sont restés dans la vérité. Et Dieu a suscité des hommes comme le Dr Meredith et M. Weston et d'autres pour continuer à préserver la vérité et à prêcher l'Évangile au monde, ainsi que la structure pour développer des congrégations pour le soutien local des membres que Dieu, dans Malachie, appelle son trésor et ses joyaux. Ainsi, nous avons donc la bénédiction de célébrer les jours saints et la fête des tabernacles à cette période particulière de l'année, au septième mois du calendrier de Dieu. Et ce temps passé ensemble nous donne la vision que nous devons apprendre à chérir. C'est une vision du genre de monde qui résultera de la vie sous les lois de Dieu. Cette loi que Satan déteste, et il convainc les gens que la loi de Dieu est oppressive, démodée, injuste, restrictive. Une simple liste de choses à ne pas faire. Mais ceux qui observent la loi savent qu'il en va tout autrement. Les opposants disent que les gens qui observent la loi essaient simplement de gagner leur salut. Et c'est un non-sens, car ce n'est pas du tout ce que dit la Bible. Comme il fut mentionné dans la sermonnette aujourd'hui, nous sommes dans un environnement hostile pour un disciple de Dieu. Mais nous disposons de moyens de défense pour traverser cette période difficile. Les lois de Dieu sont conçues pour nous aider à apprendre, à penser et à agir comme Dieu voudrait que nous le fassions dans toutes sortes de situations. Et cela prend du temps pour nous. Nous commettons des erreurs. Nous nous repentons de nos erreurs, nous revenons, nous essayons de nouveau et nous continuons à travailler. Nous devons faire preuve de diligence à cet égard. Il nous faut parfois beaucoup de temps à nous, les humains, pour apprendre. Mais nous y parviendrons, nous comprendrons et nous apprécierons. Mais, vous savez, vous regardez les façons de faire du monde, qu'ont-elles produit? Les hôpitaux sont remplis de malades et de personnes souffrantes. Les faillites sont fréquentes. Les prisons sont pleines et débordent. La criminalité augmente. Le monde produit toutes sortes d'idées irrationnelles qui ne résistent à aucune analyse logique. Dans de nombreuses sociétés, on est maintenant convaincu qu'on ne peut pas faire la différence entre un homme et une femme. Vous savez, quand les gens pensent qu'ils ne peuvent pas faire la différence entre un homme et une femme, il n'y a pas grand-chose que l'on puisse faire pour certains. C'est-à-dire que c'est dégradé sur le plan du raisonnement. Mais l'ancien Israël a reçu une promesse que nous avons lue plus tôt dans Deutéronome 7, de ce qui arriverait lorsque ces lois seraient mises en œuvre et respectées, y compris même l'élimination de toute maladie dans la société. Les fruits du millénium ont été offerts à Israël vers 1440 avant Jésus-Christ. Israël n'a pas voulu de ce marché. Ils l'ont accepté, mais ils n'en voulaient pas vraiment. Ils voulaient les promesses, mais ils ne voulaient pas obéir. Durant le millénium que nous décrivons ici, une période qui commence à un moment donné, après le jour des expiations, nous ne connaissons pas l'intervalle de temps entre la mise à l'écart de Satan et l'établissement effectif du gouvernement de Dieu. La Bible n'en donne aucune indication. Nous savons qu'il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de conflits pendant cette période. On nous dit même que Juda et Éphraïm peuvent avoir des armées qui doivent aller en Égypte et en Édom. C'est une période turbulente. Mais une fois que Jésus-Christ aura établi son gouvernement et commencé à le projeter sur la terre, une période de 1000 ans commencera. Et nous savons que la loi de Dieu sera en vigueur. Elle s'étendra probablement hors d'Israël, parce que les êtres spirituels dont vous ferez partie répandront cet enseignement de la vérité. Il ne s'agira pas d'un changement instantané de l'humanité. Mais il y aura un changement où nous aurons une patience, une douceur et pourtant une fermeté pour être miséricordieux mais ferme. Nous savons que la loi sera finalement respectée et nous voyons ce que Dieu, par l'intermédiaire du Christ, fera pour ceux qui ont survécu aux horreurs de la transition de ce monde vers un monde sous le gouvernement de Dieu. Jérémie, chapitre 31. Paul fait également ce commentaire dans le 8e chapitre de l'Épître aux Hébreux. Mais ici, dans Jérémie 31, versets 33 et 34, Jérémie 31, verset 33, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Verset 34, « Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » C'est une déclaration remarquable. Dieu fera cela pour toute l'humanité, comme il le fait pour nous. Certaines personnes se sentent coupables de choses qu'elles ont faites dans le passé et dont elles se sont repenties. Il est certain que nous nous sentons mal et que nous ne voulons pas recommencer. Mais vous savez ce qui est intéressant ici? Lorsque Dieu pardonne, il oublie. Il n'en parle plus jamais. S'il a pardonné, c'est fini. Et il dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Et cela nous amène à des résultats que nous chérissons ici à la fête et sur lesquels nous devrions méditer à tout moment pour être encouragés. Vous avez probablement déjà lu Ésaïe 11. Jetons-y à nouveau un coup d'œil rapide. Ésaïe était un prince royal de Juda que Dieu a utilisé. Lorsque vous lisez au sujet de son appel, il n'était pas très enthousiaste à l'idée de ce travail. Je pense qu'il ne l'était pas au début, mais il a compris ce qui se passait et il s'est investi de tout son cœur. Et au verset 2 d'Ésaïe 11, il est écrit « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. » Bien sûr, il s'agit ici de Jésus-Christ. « Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. » Dieu se réjouit lorsque quelqu'un lui obéit, lorsque quelqu'un le respecte suffisamment pour lui obéir. Au verset 3, il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un ouï-dire, mais d'après la loi, d'après la justice. Psaume 119, 172, tous tes commandements sont justes. Ésaïe 11, verset 4, « Mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. » Et que se passe-t-il? Le monde change. Des changements que nous croyons purement fictifs, mythologiques. La conséquence de l'intervention de Dieu est très importante. Il est dit dans le verset 6, nous le lisons tout le temps, « Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. Aujourd'hui, on ne met pas un léopard avec un chevreau. Le léopard aurait facilement un buffet rapide. » Verset 7, la vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. C'est le monde qui se profile à l'horizon. C'est le monde dont Dieu nous demande de faire partie. Non seulement d'en faire partie, il nous demande de nous former aujourd'hui pour pouvoir aider à le construire demain. C'est une si belle vision. Automatiquement, les gens disent « Ah, c'est impossible, cela ne peut pas arriver. » Eh bien non, ce n'est pas impossible. C'est ce qui arrive lorsque la loi et la façon de penser de Dieu sont observées et que Dieu peut alors causer, puisqu'il est le créateur de l'univers, il peut faire en sorte que tout arrive. Cela fait partie des bénédictions que le maître de l'univers peut apporter par son intervention. Ensuite, bien sûr, l'une des grandes malédictions auxquelles l'humanité a dû faire face depuis avant le déluge sera éliminée. Regardez Ésaïe 2, Ésaïe chapitre 2. L'une des choses que la culture de l'homme a faites au fil du temps et en divers endroits de manière un peu inégale, c'est qu'elle s'est développée sur le plan industriel. Malheureusement, une grande partie de notre développement industriel et de nos innovations sont une conséquence de la préparation à la guerre. Ésaïe 2, verset 1, prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoth, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel, et je dois préciser ici que le mot montagne se réfère à un gouvernement et non à une montagne. Parfois, nous pensons qu'il n'y a ni montagne ni vallée au cours du millénium. Peut-être juste une grande plaine? Cette théorie pose de nombreux problèmes. Tout d'abord, le monde ne serait pas un endroit très agréable sans une certaine diversité topographique, car celle-ci est nécessaire pour créer des précipitations. Nous avons besoin de cela pour faire beaucoup de choses. Toute montagne sera abaissée et toute vallée sera élevée, c'est-à-dire que les gouvernements seront abaissés, les gens seront humiliés et les humbles seront élevés. Il nous est dit que les montagnes ruisselleront de vin nouveau. Je suppose que de nombreux viticulteurs savent que les meilleurs raisins sont souvent cultivés à flanc de colline. Dans de nombreux cas, pour des raisons de drainage et parfois pour des raisons climatiques. Mais il est dit ici, au verset 3, des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi. » Ce passage est très difficile à comprendre pour ceux qui disent que la loi a disparu, car c'est Ésaïe qui l'a écrit. Que voulait-il dire par la loi? Tout le monde sait ce qu'il a voulu dire. La loi de Dieu est éternelle. Et de Jérusalem, la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux, et de leurs lances, des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Vous savez, quelle vision cela représenterait pour les habitants de l'Ukraine, n'est-ce pas? Ils traversent une période horrible. La guerre est un fléau pour l'humanité depuis avant le déluge. Lorsque la loi de Dieu est acceptée dans le cœur et l'esprit des gens, ces fléaux prennent fin. Ésaïe 35, le dernier passage auquel je vais me référer, a probablement déjà été mentionné auparavant, mais toute maladie sera éliminée pour les fidèles, tel que cela a été promis à Israël, et plutôt aux êtres humains. Ésaïe 35, verset 5. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Quel est le résultat de l'obéissance à Dieu? C'est ça le résultat. Le résultat que nous sommes ici pour illustrer. Mais il y a un moyen d'y parvenir. Et lors de la fête, comme l'a souligné Néhémie, l'une des choses à faire est de revoir la pensée et le mode de vie de Dieu dans sa loi pour s'assurer que nous sommes alignés sur elle. La vision de la fête des tabernacles est inestimable. L'homme ne peut pas l'offrir, mais Dieu l'offre à toute l'humanité par l'intermédiaire de Jésus-Christ et de ses frères et sœurs spirituels qui seront avec lui pour apporter la vérité, la paix, la prospérité et la santé à tous ceux qui se soumettent à Jésus-Christ. Les bénédictions sont la conséquence de l'obéissance à Dieu. C'est une conséquence que Satan veut cacher à l'humanité. Cependant, elle n'est pas cachée à ceux qui cherchent à obéir à Dieu et qui ont été triés par Dieu, comme vous l'avez été, et appelés par Dieu le Père. Vous n'êtes pas appelés par Jésus-Christ, vous êtes appelés par le Père, selon Jean 6, 44. Et il vous a choisi parce qu'il sait que vous avez le caractère pour réussir. C'est une vérité étonnante dans la Bible. Ainsi, ces jours saints nous apportent une incroyable bénédiction d'espoir et de vision sur la manière dont Dieu a élaboré un plan et donne une opportunité équitable et égale à chaque être humain qui soit né. Et nous respectons dans l'ordre les jours saints, répétant chaque année le message et la signification de ces jours. C'est une excellente information, mais il ne suffit pas de connaître l'information. Israël a reçu beaucoup d'informations de Moïse, de Dieu à travers Moïse. Ils avaient beaucoup d'informations. Les prophètes ont donné beaucoup d'informations. Notre ancienne association disposait de nombreuses informations sur la Bible. Mais cela ne vaut rien si vous ne le mettez pas en pratique. Si vous ne le laissez pas guider votre vie, à moins que vous rejetiez le mal et acceptiez le bien. L'arbre de la connaissance du bien et du mal signifie simplement choisir par soi-même ce qui est bien et mal, disait M. Armstrong. L'arbre de la vie signifie choisir de suivre la loi de Dieu et son mode de vie. C'est la différence. Nous ne retenons pas les informations simplement en répétant machinalement les instructions de Dieu. Si nous sommes vraiment sérieux, nous nous réjouirons de ces grandes vérités que nous apprenons ici. Nous devons aussi travailler dur pour forger un caractère juste, nous forcer à prendre les bonnes décisions lorsqu'il y a un choix à faire. Nous devons nous débarrasser des mauvaises habitudes et des mauvais comportements. Nous devons vivre selon l'esprit de la loi de Dieu et son dessein lorsque nous pensons, agissons et parlons. C'est une tâche énorme, ce n'est pas facile, mais c'est ce que Dieu s'attend de nous. Si nous voulons voir l'accomplissement de ces jours, c'est ce qu'il demande. En conclusion, en ce qui concerne l'éternité, nous ne savons pas ce qu'il y a comme futur au-delà d'Apocalypse 22. C'est le plus loin que Dieu nous révèle actuellement. Nous savons qu'il y aura une nouvelle Jérusalem sur une nouvelle terre. La Bible implique, en quelque sorte, qu'il n'y aura plus besoin de soleil. Cela soulève toutes sortes de questions sur le cycle de 7 jours. Comment peut-on avoir un cycle de 7 jours sans soleil? Mais le sabbat était fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, comme il est dit. Alors qui sait ce que Dieu a en tête? Mais nous serons enseignés par Dieu le Père. Il verra à ce que nous recevions les instructions correctes sur la manière de se souvenir de notre passé et de regarder vers l'avenir. Il existe un univers qu'il a créé. Il a un but pour cet univers. Il révélera ce qu'il est en train de faire. Plus nous l'observons à partir des engins spatiaux, en particulier le télescope James Webb, plus cela soulève de multiples questions. L'autre jour, je discutais avec une personne et je regardais un article de recherche qui avait été rédigé à la suite de l'une de ses expériences. Et ce qui est étrange, c'est que les galaxies qui existent, qui sont innombrables, semble-t-il, ont toutes une sorte de structure. Ce qui est vraiment déconcertant. Pourquoi cela? Dieu a quelque chose de beaucoup plus grand en tête. Il commence ici, et il y a un fantastique avenir pour nous. Mais pour y arriver, nous devons être dans le bon état d'esprit. Nous devons chérir la vision qui nous est donnée. Nous avons un travail à accomplir et nous devons le faire avec toute notre force. L'obéissance à Dieu sera pour toujours. Et cette unité de pensée fera partie intégrante de la raison pour laquelle l'avenir au-delà du millénium sera si fructueux. Entre-temps, frères et sœurs, Satan fera tout pour nous amener à dévaloriser la loi de Dieu. Il veut que nous déprécions ses jours saints, son mode de vie et sa façon de penser. Nous avons été miséricordieusement appelés à connaître la signification des jours saints de Dieu si nous obéissons à cet appel. La connaissance de la signification des jours saints de Dieu s'accompagne d'une vision remarquable et d'une glorieuse espérance. Mais pas seulement une espérance, une certitude. Si et seulement si nous appliquons le dévouement dont Dieu sait que chacun d'entre nous est capable, cela deviendra une réalité pour nous. L'Église de Dieu à travers les âges a été bénie par la vérité de ces jours que nous célébrons et de la fête des tabernacles. Il n'a peut-être pas toujours été possible de les célébrer comme nous le faisons aujourd'hui, dans le monde antique ou à l'époque du Moyen Âge, mais nous pouvons le faire aujourd'hui. C'est une bénédiction pour nous d'être assez libres pour nous réunir et de le faire. Et nous devons remercier Dieu pour cela. Mais nous avons la bénédiction de pouvoir nous réunir pour célébrer ensemble et honorer Dieu, fraterniser, discuter collectivement et savourer la vision que ces jours projettent. Cette vision et la fraternisation doivent nous porter tout au long de cette fête, nous aider à oublier les petites irritations que nous pouvons avoir de temps en temps et le stress que nous subissons tout au long de l'année. La vision de l'accomplissement du plan de Dieu, telle qu'illustrée par la fête des tabernacles et le dernier grand jour, est également conçue par Dieu pour nous porter tout au long de l'année, pour nous donner cet espoir, cette force, cette raison de prendre des décisions difficiles. Faisons donc confiance au jour saint de Dieu, à ce qu'il représente, et consacrons-nous à soutenir l'œuvre de Dieu, non seulement par la prédication de l'Évangile, mais aussi en développant le caractère, les attitudes, la bienveillance, l'attention, la sollicitude et la miséricorde les uns envers les autres que nous devons avoir si nous voulons nous asseoir sur les trônes que Dieu a prévus pour nous.